Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe est là. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. Et aujourd'hui, à la une de notre émission, un nom qui peut-être ne dit plus grand-chose à nos contemporains, mais qu'ils vont être forcés de s'en souvenir parce qu'il y a un livre absolument magnifique dont l'auteur est mon invité, Philippe Génada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre livre est une véritable enquête policière, mais c'est aussi un livre d'écrivain. Et on vous a invité parce que ce que vous dites de l'histoire de Pauline Dubuisson, donc c'est ce nom qui, je crois, n'évoque pas grand-chose au grand public à l'heure actuelle. Ce livre, vous l'avez intitulé « La petite femelle » et votre enquête permet de remettre, si j'ose dire, les pendules à l'heure autour d'une affaire exceptionnelle, d'un personnage exceptionnel sur qui on a dit « pique-pendre » et d'une certaine manière, vous rétablissez la vérité sur à la fois la personnalité de cette jeune femme et sur l'acte dont elle était accusée, c'est-à-dire d'avoir tué son ancien amant de 3 coups de pistolet, alors qu'elle a toujours dit pas du tout « je voulais me suicider », on reviendra en détail là-dessus, mais c'est amusant de vouloir la vérité sur Pauline Dubuisson, alors que la vérité, c'est le titre de ce film d'Henri-Georges Clouzot, qui en 1961 a fait que Pauline Dubuisson a été rattrapée par son passé, parce que le grand cinéaste avait confié à Brigitte Bardot et à Samy Frey les 2 rôles principaux de son film « La vérité ».
Tu vas me faire un plaisir. Tu vas t'en aller gentiment, sans histoire. Moi, les discussions, les drames, j'en ai par-dessus la tête, tu comprends? C'est fini. Fini!
Oui, c'est fini. Pour de bon. T'inquiète pas, je t'embêterai plus. J'ai trop souffert. Je suis à bout. Je vais te laisser tranquille. Pour toujours.
Ah oui, le suicide. Ça, je sais, tout Paris est au courant. Seulement avec moi, ça ne prend pas, tu comprends?
Pauvre type. Dire que je t'ai trouvé beau. T'es moche. Moche! Moche! Dire que je vais crever pour ça.
Mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Pendant 6 mois, on a vécu ensemble. Tu t'es envoyé en l'air avec tous tes petits copains. Un jour, on a dit ça suffit, toi comme moi. Et maintenant, tu t'es mis dans la tête que je suis l'homme de ta vie. Tu te suicides à cause de moi. Non, mais je te pose la question. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Tes conneries, j'en ai marre. Tu peux les garder pour toi. Je veux plus te voir. Tu me dégoûtes. Tu me fais vomir. Tu me sors par les yeux. Alors si tu veux mourir, meurs. Mais que ce soit pour de bon, notre Dieu.
Brigitte Bardot, Samy Frey, dans le film, ils incarnent respectivement les personnages de Dominique Marceau et de Gilbert Tellier, mais évidemment, et surtout pour le public de l'époque, les choses étaient transparentes. C'était l'histoire de Pauline Dubuisson qui avait été condamnée en 1953 à la prison à perpétuité pour le meurtre donc de Félix Bailly. Alors, j'ai choisi, Philippe Génada, de passer cet extrait maintenant, parce qu'il y a à peu près tout ce que vous critiquez, tout ce qui fait que vous avez consacré des mois de votre vie à faire cette enquête.
Ouais, vous avez très bien choisi, parce que vraiment cette scène, le fait qu'elle soit extraite du film, mais c'est également la manière dont on l'a relaté dans la presse, est vraiment emblématique de ce qui est arrivé à Pauline Dubuisson, c'est-à-dire en permanence une sorte de décalage par rapport à la réalité, de reconstitution. Et c'est surtout, c'est émouvant d'entendre ça, et puis c'est un peu douloureux de se dire que elle était vivante, elle était à Paris au moment où le film est sorti, donc elle a, je sais pas si elle a vu le film, personne ne le sait, mais en tout cas elle en a entendu parler, et c'est ce qu'on pensait d'elle à l'époque, c'est-à-dire que là on l'entend dans l'extrait, on entend son fiancé qui l'insulte, qui la provoque, ce qui n'est pas du tout, ce qui n'a pas été le cas du tout, parce que je pense que Félix Bailly était un garçon plutôt gentil, timide et un peu lâche, et puis surtout elle qui le tue dans le film, ça s'entend pas évidemment, mais elle le tue dans le dos, ouais. Ce qui est techniquement absolument impossible avec les relevés de balistique, etc. Et puis elle le tue volontairement, c'est-à-dire qu'elle l'exécute, c'est ce qu'on lui a reproché. Si à l'époque, des journalistes ou évidemment, bien sûr, son avocat avait un peu fouillé, moi je suis pas un grand détective, je suis pas un grand enquêteur, il a pourtant suffi que je regarde les rapports de police, les déclarations des témoins, ça saute aux yeux que ça n'a pas pu se passer comme ça, et le déroulement de la scène est assez clair pour peu qu'on creuse un peu.
Mais à l'époque, évidemment, le procès était suivi par toute la France. Il n'a pas divisé la France, tout le monde était d'accord, il fallait qu'elle meure, il fallait qu'elle soit condamnée à mort. La presse, dans la presse, on l'appelait la ravageuse, la Messaline des hôpitaux, la hyène.
Voilà,
bon, voilà, on hésite, il y a encore le monstre, la diabolique. Ça a été quelque chose de terrible. Quel a été le déclic véritable? Parce que vous le dites pas dans votre livre, La Petite Femelle, la raison précise pour laquelle vous êtes intéressé à l'histoire de Pauline Dubuisson.
Alors c'est tout bête, et d'ailleurs ça suit un peu un chemin qui illustre le propos du livre. C'est que après mon dernier livre, où j'avais parlé d'un cambrioleur de manière un peu empathique, et
Bruno
Sulac, et avec affection, on me l'a d'ailleurs un peu reproché de faire une hagiographie, etc. Donc je m'étais dit, je vais trouver un personnage plus noir, plus sombre. Et puis une amie m'a donné un livre sur les femmes criminelles du XXe siècle. On parlait de Pauline Dubuisson, dont je n'avais jamais entendu parler, je ne connaissais pas ce nom-là. Ouais. Et elle était présentée comme une vipère, un monstre, une femme d'une perversité, d'une cruauté. Et je me suis dit, voilà un sujet pour moi, on ne pourra pas m'accuser d'empathie. Je vais raconter l'histoire de cette vipère perverse. Et puis, je creuse un peu, je me documente un petit peu, évidemment, en espérant tomber sur des choses vraiment lugubres et pernicieuses. Et puis je me rends compte petit à petit que tout ce qu'on a écrit sur elle à l'époque, et même jusque dans les années 90, est complètement faux, mais vraiment de manière...
grosse part d'invention.
Oui, mais vraiment des mensonges, de vrais mensonges de la part des journalistes. Oui. Mais bon, c'est plus ou moins volontaire. De la part des policiers, mais on peut dire que c'est toujours un peu à charge, mais des mensonges de la part des magistrats, du juge, de l'avocat général, enfin. Oui. Et donc, je me suis retrouvé, malgré moi, à faire encore un livre empathique, et puis essayer de la défendre, parce que c'est vraiment choquant. Il y a deux vies parallèles, il y a la vie de Pauline Dubuisson, et le reflet de la vie de Pauline Dubuisson dans les médias et l'opinion de l'époque. Toute la France lui est tombée dessus. Il y a très très peu de gens. Il y a peut-être un ou deux journalistes qui étaient d'ailleurs considérés comme des sortes de fous furieux qui ont essayé de la défendre. Dans la salle, il y avait Jacques Vergès. C'était le premier procès auquel il a assisté.
C'est ce qui a déclenché sa vocation, ce qu'il a dit en tout cas.
En tout cas, c'est ce qu'il a écrit plus tard. C'est que
il a eu envie d'être avocat après avoir vu ce procès.
Il disait ce procès n'est que tumulte et injure, et c'est l'exemple même de l'injustice. Donc voilà. Mais les gens étaient très peu nombreux à s'indigner sur le moment du procès, où il y avait vraiment une haine générale. Dès que le verdict d'un poids disproportionné est tombé, l'opinion publique s'est un peu retournée.
Voilà, alors on va revenir très minutieusement, j'allais dire, sur les grands moments de la vie de cette jeune femme, une petite jeune fille qui passe son enfance à Dunkerque, sauf qu'il y a la guerre, quoi. Ah, elle va coucher avec un Allemand à 14 ans, donc ça, c'est pas bien. Elle a été tondue à la Libération, pas violée, d'ailleurs, vous rectifiez, mais on y reviendra aussi. Puis après, elle fait des études de médecine, un peu, pour oublier tout ça, et puis elle rencontre Félix Bailly, c'est le garçon qui va mourir, et puis elle est condamnée à perpétuité. Et puis, elle rentre dans l'anonymat, mais pour peu de temps, puisqu'elle filme la vérité. Alors, elle part pour le Maroc, où elle finira par réussir son suicide. On reviendra sur ce verbe, réussir.
Jacques Pradel, sur RTL.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui est journaliste et surtout écrivain, Philippe Génada, qui publie aux éditions Julliard La Petite Femelle, qui est l'histoire de Pauline Dubuisson, mais j'allais dire à la fois avec la méticulosité de l'enquête journalistique, mais c'est aussi une œuvre littéraire. Pourquoi vous l'avez appelée La Petite Femelle ?
Alors je n'ai pas vraiment cherché de titre, il s'est un petit peu imposé. Donc Brigitte Bardot a joué le rôle de Pauline Dubuisson, un peu décalé dans La Vérité. Oui. Et il y a un autre film de Brigitte Bardot qui est un peu... La Vérité était considérée comme un des plus grands rôles, enfin un vrai rôle dramatique de Brigitte Bardot. Un autre film dans lequel elle a un rôle similaire s'appelle En cas de malheur.
Oui. Claude Autant-Lara.
De Claude Autant-Lara, c'est adapté d'un roman de Simenon. Et puis elle a un peu ce même rôle, c'est-à-dire c'est aussi un film de la fin des années 50. Et elle est présentée comme une jeune femme un peu légère et un peu... non convenable, oui. Pas dans les critères de l'époque. Et puis dans ce film, il y a un homme qui veut l'épouser, habiter avec elle, etc. Elle lui dit qu'elle refuse. Il dit, mais toutes les femmes doivent accepter ça. Et elle dit, non, moi, je suis une petite femelle. Il faut me laisser faire ce que j'ai envie. Ouais. Et la manière dont elle le dit, ça m'a interpellé, parce que Petite femelle, c'est un livre un peu féministe, quand même. Petite femelle, ça peut être vu d'une manière très négative, très machiste, genre, c'est un animal, la femme est un animal. Ouais. Mais l'autre versant, c'est la petite femelle qui ne se laisse pas dompter et qui... Voilà. Qu'il faut pas embêter. Donc voilà, j'aimais bien l'ambiguïté entre les deux. Oui. Et puis Pauline Dubuisson a toujours fait face au vieux messieurs qu'il a jugé avec une sorte de pas de rage du tout, mais de froideur et de sauvagerie presque animale. Elle a fait face, elle a fait front comme un petit animal.
Voilà. Et mais ça, on y viendra tout à l'heure, parce que chacun de vos chapitres dans ce livre, La Petite Femelle, correspond à un trait de caractère. Finalement, si vous voulez faire un portrait de Pauline Dubuisson en creux ou en vérité ou en mensonge, on prendrait les termes que vous avez utilisés. La ravageuse, d'ailleurs, c'est le titre d'un de vos chapitres. Alors, on va revenir sur l'histoire de cette jeune femme. Ça se passe dans le nord de la France. On va s'arrêter sur Dunkerque. Hein. Elle est née dans le coin, Malo-les-Bains, je crois, ouais. 1927. Et son père est un notable.
Son père est un notable. Sa famille, d'ailleurs, elle est née dans cette commune qui s'appelle Malo-les-Bains, qui est nommée d'après son arrière-grand-père, Gaspard Malo, qui est le fondateur de la commune, dont le père était un pirate célèbre. Donc la famille est très respectée. Alors c'est 150 ans plus tard, donc le prestige de la famille a un peu diminué, mais en tout cas c'est une famille, c'est une famille d'entrepreneurs, de bâtisseurs. Ils ont construit plusieurs belles villas de la ville, donc elle naît dans une famille qui est une des familles qu'on pourrait appeler un peu de notables de la ville. Mais avec des choses un peu bancales, c'est-à-dire que sa mère est un peu évaporée, sa grand-mère était folle, sa tante a fini dans un asile, et son père est un peu étrange aussi. C'est quelqu'un de très rigide, de très renfermé, un colonel du génie. Et c'est vraiment quelqu'un de particulier. J'ai vu des photos de lui. On n'a pas envie de le prendre dans ses bras, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui.
Alors, quand la guerre est déclarée, elle a 12 ans, et les Allemands vont venir à Dunkerque, hein, parce que Hitler avait voulu que Dunkerque soit, comme d'autres villes de la côte ouest, un véritable sanctuaire inatteignable, ouais, par les Anglais, une forteresse. Et son père, lui, il veut, pendant la guerre, le business continue, quoi. Il va quand même avoir une attitude par rapport à l'occupant assez particulière. Alors on dit que c'est lui qui va inciter sa fille à avoir des relations avec les Allemands.
Alors évidemment, c'est très délicat, c'est très ambigu, mais son père a toujours voulu faire de sa fille une sorte de petit guerrier, juste dans une bonne intention, pour qu'elle ne se fasse pas écraser par les hommes et la société. Par exemple, il ne l'a pas envoyée à l'école, c'est lui qui a fait son éducation jusqu'à 8 ans. Et puis quand les Allemands sont arrivés, comme il avait fait son éducation et que c'était une fille très intelligente, elle parlait couramment l'allemand, papa a eu l'idée de se servir, entre guillemets, de sa fille pour obtenir des marchés. Donc il l'emmenait avec lui, elle avait au départ 12 ou 13 ans, vraiment. Ouais. Il l'emmenait avec lui voir les officiers supérieurs qui allaient décider de la construction de telle ou telle fortification. Elle traduisait. Et petit à petit, ce gentil papa a pensé qu'il était peut-être mieux qu'elle y aille toute seule. Ouais. Et donc Pauline Dubuisson, qu'on a ensuite traité de tous les noms, on a dit qu'elle avait le diable au corps dès l'âge de 13 ans parce qu'elle couchait avec des vieux messieurs nazis. Mais son père n'était pas tout à fait étranger à tout ça. Il a beaucoup travaillé. Je dis pas que c'était vraiment conscient ou volontaire, mais en tout cas, il pouvait pas ignorer complètement que sa fille lui permettait d'obtenir les marchés.
Alors, elle a eu des relations suivies avec un médecin, un colonel allemand, hein, avec d'autres aussi, mais alors c'est là où vous dites, puisque quand je parle de méticulosité dans votre enquête, c'est que vous reprenez tout ce qui est sorti au procès, finalement. Parce qu'après, c'était une instruction à charge, hein, disons-le, et un procès à charge. Ouais. Elle avait été tendue à la libération, c'était normal, parce que... et il y avait des témoignages qui venaient. Alors, il y a effectivement le fait d'avoir eu une histoire d'amour avec un soldat allemand, et enfin, gradé allemand, mais après on a dit c'est vraiment une traînée, quoi. C'est une fille à soldat, et elle est surprise un jour dans un parc, hein, je crois, de la ville de Dunkerque.
Ouais, c'est vraiment c'est très symbolique de ce qu'on a fait avec la vie de Pauline Dubuisson. C'est qu'au procès et dans la presse, on a dit qu'en 1941, alors qu'elle n'avait même pas encore 14 ans, elle a été trouvée dans un square, dans une sorte de bas-fond de square à Malo-les-Bains. Ouais. Alors on essayait de faire des périphrases, etc. Mais on comprenait très bien qu'elle était en train de coucher avec un jeune
allemand. C'est un policier hein, qui fait cette...
Alors on ne le savait pas. On dit, et au procès des magistrats, on dit « Vous avez été surprise en scabreuse posture. » Et puis moi, dans les dossiers, dans les archives que j'ai consultées, j'ai retrouvé une toute petite feuille, toute vieillie et jaunie, qui est le petit rapport qu'avait écrit ce policier en mars 1941, et puis qu'on avait classé là, que tout le monde a vu, les journalistes, et enfin, en tout cas, les magistrats, mais que personne n'a cité. Et dans ce rapport, il dit, en passant aujourd'hui par le square, machin, j'ai trouvé la jeune fille Pauline Dubuisson, âgée de 13 ans, en conversation avec un jeune matelot allemand qui s'apprêtait à lui offrir des fleurs. Et cette chose, au lieu de prendre ça,
de la scène scabreuse,
s'est transformée. Et on le lisait vraiment dans les journaux ou au procès qu'ils étaient tous les deux nus derrière un buisson. Enfin, bon, c'était vraiment.
Mais alors pourquoi il avait écrit ce rapport, ce policier aussi?
Parce qu'à l'époque, donc c'était en 1941, donc au tout début de l'occupation. Ouais. Et puis c'était son rôle de faire un rapport. Il trouvait une jeune française discuter avec un soldat allemand. Il a fait un rapport, mais qui n'a pas vraiment porté à conséquence. On a convoqué son père au commissariat. Il a dit oui, mais ma fille est assez proche de. Enfin, le père recevait des Allemands chez lui, donc le père a trouvé ça tout à fait normal. C'est un bouquet de fleurs, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Mais puis avec le temps et l'écho et les répétitions, c'est devenu une preuve qu'elle avait le diable au corps.
Alors évidemment, quand la libération est arrivée, il y a eu cette. On va y revenir dans un petit instant après une pause. Elle a été tondue, ça c'est. Vous dites dans votre livre à 99,9%, c'est sûr. Mais on a dit aussi d'autres écrivains d'ailleurs ou journalistes ont dit, et elle a été également a subi un viol collectif, et c'est pour ça finalement qu'elle a voulu se venger des hommes plus tard, et que d'une certaine manière Félix Bailly aurait payé les pots cassés. C'est pas tout à fait votre façon de voir l'histoire. On y revient dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL.
L'invité de l'heure du crime, l'écrivain Philippe Génada, littéralement obsédé, on peut le dire, par la vie de Pauline Dubuisson. De toute façon, c'est vous qui employez l'expression.
On peut dire ça.
Hein, en plus, vous dites c'est tout ma femme.
50 ans plus tôt.
50 ans plus tôt.
Je dis ça juste pour qu'elle m'en veuille pas de parler d'une autre femme.
Oui, mais parce qu'elle vous a envahi la vie vraiment pendant quoi?
Ma femme, vous voulez dire?
Non, bien sûr que je me permettrai pas. Je la connais pas d'abord. Mais la petite femelle.
Ah ben pendant 2 ans, 7 jours sur 7, 52 semaines par an, quoi. Vraiment du matin au soir. J'ai en fait, juste avant la sortie de mon précédent livre, je suis tombé sur son histoire, et depuis je n'ai pas
arrêté. Vous avez fait une plongée quoi, profonde. Alors, donc il y a la guerre, alors il y a cette histoire de d'être tondu à la libération. Vous pensez que effectivement, mais ça n'a pas été évoqué au procès, non. Et ça n'a pas été évoqué dans le film de Clouseau, mais on se dit que Clouseau n'avait pas envie peut-être de revenir sur les années de guerre, parce que lui-même avait travaillé pour des producteurs allemands, enfin bon.
Il y avait eu des petits soucis dans le film. Brigitte Bardot n'a carrément rien à voir avec. C'est une jeune femme qui sort comme ça ex nihilo. Elle n'a pas de passé, elle n'a pas de. Ouais. En tout cas, rien à voir avec l'occupation.
Mais ce qui veut bien dire une chose, c'est que, en fait, quand vous dites, mais on a menti, on a inventé des affaires comme, par exemple, le fait du viol collectif, c'est plus pour lui trouver a posteriori, ou même de façon vraiment posthume, un mobile, mais ça n'a pas été utilisé par le tribunal, parce que le tribunal, de toute façon, n'avait pas besoin de s'arracher les cheveux pour savoir comment on allait. La condamner, quoi, en fait.
Cette histoire de viol, je me demandais, quand on regarde maintenant sur Internet, c'est une évidence, comme une évidence qu'elle est née à Dunkerque, qu'elle a été violée par des résistants de la dernière minute. Oui. Et puis j'ai cherché d'où ça venait en remontant un peu dans le temps, et en fait c'est apparu en 1992. Oui. C'est une invention, je pense, d'un auteur qui s'appelait Serge Jacquemart, qui a écrit un livre, une sorte de livre qui relate le fait divers.
Oui.
Et avant, il n'y a absolument aucune trace, et puis je me suis renseigné auprès d'historiens, etc. Oui. Donc bref, c'est presque impossible qu'elle ait été violée. Et je me suis dit, pourquoi c'est les personnes qui en parlent, que ce soit cet auteur ou Jean-Luc Seigle, par exemple, qui a publié en janvier...
Qui a été notre invité, d'ailleurs, l'an dernier, oui.
C'est dans une, entre guillemets, une bonne intention, c'est-à-dire, c'est pour dire qu'elle a souffert, elle a beaucoup souffert, mais il y a un effet pervers à ça, c'est que ça justifie l'image qu'on lui a prêtée ensuite, c'est-à-dire une femme qui a voulu faire souffrir les hommes, dont le seul but était de faire souffrir les hommes, d'abord de manière amoureuse, et puis celui qui lui a résisté, elle le tue. C'est comme si ça justifiait.
Alors que vous pensez, on y viendra tout à l'heure plus en détail, mais vous pensez penser que lorsqu'elle se rend chez Félix Bailly, rue de la Croix-Niver, avec un pistolet qu'elle a acheté chez un armurier, c'est pour se tuer sous ses yeux, et que, évidemment, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé après, on n'a que sa version, mais sa version, c'est qu'en gros, il a voulu lui arracher le revolver pour qu'elle ne se tire pas dans la tête, et puis, un coup est parti. Alors, le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas eu un coup, il y en a eu trois, quoi. Bon. Voilà.
Mais on n'a pas tout à fait que sa version. On a sa version, évidemment, c'est le seul témoignage. Oui. Mais il y a la balistique, il y a la position du corps de sa victime, il y a la position des balles.
Mm-hmm. Qui conforte cette version-là.
Qui contribue à approuver la version qu'elle a donnée, elle, selon laquelle c'est plus un accident qu'une exécution.
Alors, elle a eu quand même donc très tôt des relations avec des hommes, quand même, à l'âge de 14 ans. Elle a cet épisode donc à la libération et elle va faire des études décider de faire des études de médecine, ce qui est aussi pour une femme à cette époque n'est pas banal, hein, enfin pas courant. Il y en a d'autres évidemment, mais bon, la société, elle est quand même assez oppressive par rapport aux femmes. Et puis, comment elle rencontre Félix Bailly ? Alors, parce que Félix Bailly, lui, il est aussi étudiant en médecine. Hein.
Oui, à la faculté de Lille. En fait, elle arrive en 46 à la faculté de Lille, après une année où elle est partie à Lyon, sans doute justement parce qu'elle avait été tondue, et puis pour se remettre un petit peu. Et puis, en 46, elle le rencontre. C'est une très jolie fille, une grande fille, mince, élégante, et puis qui dégage, à l'époque, on devait dire qu'elle avait du chien, quelque chose comme ça. Elle dégage quelque chose d'un peu trouble. Et puis lui, c'est le beau garçon de la fac. C'est le beau garçon, gentil, promis un brillant avenir, un peu timide, mais vraiment, quand on voit des photos de lui, il ressemble un peu à Grégory Peck. Moi, je trouve que c'est vraiment le beau gosse de l'époque.
Et qui tombe amoureux d'elle, puisqu'il va lui proposer le mariage. Hein,
très vite. C'est-à-dire que, alors, ils mettent quand même 6 ou 7 mois avant de coucher ensemble, mais dès le lendemain de leur première nuit d'amour, il la demande en mariage, ce qui, elle, la déconcerte un peu. Elle sait que si elle se marie, il faut qu'elle abandonne ses études de médecine. Ouais. Et lui, lui dit même presque avec naïveté, il lui dit qu'elle sera la femme du médecin. Quoi.
Bon, alors, Philippe Génada, là, on est au cœur des questions qu'on s'est posées sur la personnalité de cette jeune femme. Vous avez pris le temps, et là, vous avez eu la patience dans votre enquête de revoir aussi toutes les relations amoureuses qu'elle a eues après la guerre. Et elle en a eu. Et elle a eu des romances incroyables et des gens avec qui elle a correspondu, et même un Allemand, enfin, qui lui écrivait d'Autriche, etc. Elle refuse le mariage parce que on sent que c'est une jeune femme qui veut rester libre, en fait. Et puis, quand même, lorsque elle va apprendre que Félix Bailly a décidé de se marier, là, rien ne va plus, et elle va on peut retenir, le harceler pour qu'il l'épouse, pour qu'il revienne sur cette décision.
Ça, c'est une fois le reflet qu'on en a donné, mais quand on regarde vraiment les faits, par exemple, on a dit que dès qu'il l'a quitté, parce que lui a fini par se lasser, il l'a quitté.
Oui. Il s'est lassé de quoi?
C'est-à-dire qu'il l'a demandé,
elle avait d'autres relations,
4 fois en mariage. Elle a eu une relation avec un professeur, mais à un moment où, encore une fois, la vérité est un peu déformée, à un moment où elle n'était plus avec lui. Ils s'étaient disputés parce qu'elle avait refusé de se marier avec Félix. Oui. Et donc, ils se sont séparés pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, elle a couché avec un professeur et elle a arrêté de coucher avec lui dès qu'elle a repris avec Félix. On dit qu'elle a trompé de tous les côtés. C'est pas vrai, elle l'a trompé une fois avec ce professeur.
Donc, c'est pas la Messaline des hôpitaux.
Pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, de nos jours, passerait pour une fille presque chaste, presque.
D'accord. Alors, bon, ils se connaissent comme ça sur les bancs de la fac. Elle, par rapport à sa famille, on voit cette union éventuellement d'un bon œil ou pas?
Alors elle, sa famille est très particulière. Sa mère est complètement dans les nuages, pour être gentille. Enfin, sa mère est très dépressive et vraiment, elle s'occupe de rien. Elle sait même pas que sa fille a eu son baccalauréat. Enfin bon. Oui. Et son père est, lui, comme je disais, rigide, renfermé sur lui-même, s'occupe pas beaucoup de tout ça. Oui. C'est dans la famille de Félix Bailly que ça cloche. Puisqu'on se renseigne un petit peu. Là, par contre, ce sont des gens vraiment respectables, très droits, et lui est médecin aussi, son père, et on apprend que sont passés sous l'occupation. D'accord. Et donc les parents font une pression très forte sur leur fils
pour qu'il ne s'engage pas avec
et pour qu'il la quitte. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a quitté. Le père, dans une déposition, dit à la police: mon fils n'a pas fait de problème pour nous obéir. Donc c'est que vraiment ils ont dit: tu quittes cette fille, tu quittes Lille. Il est parti étudier à Paris pour être sûr que la tentation de le... Donc c'est plutôt les parents de Félix Bailly qui ont été la cause de la rupture.
Alors maintenant, en 2 mots, avant la pause, là, parce qu'après on va parler de cette scène incroyable, de suicide manqué, d'assassinat, enfin, qu'est-ce qui fait qu'elle va décider d'aller rejoindre Félix Bailly à Paris. Parce que c'est pas quelqu'un qui fait un aller-retour en train, hein. Je veux dire, elle y va, elle va passer une nuit avec lui vraisemblablement, elle va rester à Paris 3 ou 4 jours. Entre temps, elle a cherché à s'acheter une arme. Tous ces gens ont témoigné après au procès. Ouais. Hein. Elle avait passé d'argent à Paris dans une armurerie où elle avait essayé de se procurer une arme. Donc l'arme, elle va l'acheter à Dunkerque. Donc il y a quand même tout ce qui peut faire penser à une préméditation.
Oui.
Mais de suicide ou d'assassinat, c'est ça la question.
De suicide. En fait, donc voilà, la version, c'est qu'elle apprend qu'il va se marier avec une autre, elle devient folle de rage, elle va à Paris, elle le tue. En fait, pas du tout. Elle est allée à Paris, c'est à cause d'un malentendu. Elle a rencontré un de leurs amis à Lille qui venait de voir Félix Bailly à Paris, qui, pour faire un peu l'intéressant, lui a dit, il m'a parlé de toi, il pense toujours à toi, etc., etc. Alors que c'était pas tout à fait vrai, il lui avait parlé d'elle, mais sans doute sans dire qu'il pense à elle. Oui. Elle retrouve l'espoir, ça faisait un an qu'ils étaient séparés. Oui. Retrouve l'espoir, se remet en tête qu'il ne l'a pas oublié, qu'ils ont un avenir possible ensemble. Elle lui écrit des lettres en lui disant « Je consens à être ta femme, à devenir ta femme et je serai la femme que tu souhaites. » Elle va à Paris, il passe une nuit, lui est fiancé à une fille, alors fiancé chastement, ils attendent le mariage, à une fille, une jeune...
Ils s'écrivent, vous avez retrouvé leurs lettres. Hein,
oui, j'ai retrouvé les lettres qui s'écrivaient. C'est le couple vraiment parfait pour l'époque. Ouais. Lui était très gentil, elle aussi, je pense. Hein, c'était vraiment des gens bien, mais bon. Et puis, Félix Bailly, ça fait un an qu'il n'a pas connu les joies horizontales. Alors, quand Pauline Dubuisson vient le voir, ils passent une nuit ensemble. Et le matin, elle lui dit, bah, écoute, voilà, maintenant, je veux plus qu'on parle, je vais me marier avec Monique. Et Pauline, ça passe pas.
Voilà, alors ça passe pas. Alors les uns vont dire, si on continue à naviguer entre vérité et mensonge, les uns vont dire, c'est Messaline qui se révolte parce que elle n'aime pas que les hommes lui résistent. Donc, quand il lui a proposé le mariage, elle l'a jeté. Mais après, quand elle a appris qu'il s'intéressait à une autre, alors par orgueil, elle a voulu absolument rétablir les liens. Et comme il n'a pas voulu, elle l'a tué. Et puis l'autre version, qui est la vôtre, hein, évidemment, c'est que devant ces phrases dures de ce garçon au matin, après avoir une nuit d'amour, elle décide de rentrer, d'acheter ce fameux pistolet et de se tuer. Mais elle veut se tuer sous ses yeux. Il n'y a pas plus romantique, finalement.
L'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, à la une de l'heure du crime, l'affaire, ce qu'on pourrait appeler l'affaire Pauline Dubuisson, ce grand fait divers de l'après-guerre, 1951, cette jeune femme étudiante en médecine qui tue un autre étudiant en médecine, blessure d'amour, crime passionnel, l'instruction est menée absolument à charge, elle a aucune chance de s'en sortir. Franchement, on va revenir là-dessus avec Philippe Génada qui, lui, a décidé de mener cette enquête à la fois d'écrivain et de journaliste et presque de policier dont le résultat est un livre magnifique. J'ai pas encore dit que c'était un pavé, ça fait peur aux gens, mais n'ayez pas peur des 700 pages, c'est vraiment un livre de poids, mais dans tous les sens du terme, et qui pèse vraiment dans la balance de la justice vers la vérité pour cette jeune femme. Le titre du roman de Philippe Génada paru chez Julliard, La petite femelle. Alors, ce qui va suivre, ce qu'on a dit d'ailleurs il y a un instant, et ce qui va suivre, donc c'est ce drame, et puis ensuite tentative de suicide de cette jeune femme avec le gaz, mais les pompiers arrivent trop tôt, et puis plus tard elle est incarcérée, elle va encore faire une tentative de suicide en prison, mais là ce qui fait qu'elle pourra pas assister à la première audience de son procès, donc on dira ah mais voilà, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est une faussaire, c'est une simulatrice. Vous n'êtes pas du tout d'accord là-dessus, voilà. et vous publiez des comptes rendus de ce qui s'est vraiment passé. Ils sont passionnants. Mais je reviens à l'ambiance qui a été rendue par Henri-Georges Clouzot à propos du procès. Donc là, on est avec le film La Vérité. On est toujours avec Brigitte Bardot, Dominique Marceau. Les autres acteurs, il y a Paul Meurice, il y a Charles Vanel, hein, surtout qu'on va entendre là dans cet extrait. C'est le président et les avocats qui interpellent l'accusé Brigitte Bardot. Écoutez ce moment.
L'homme que vous adorez vient de s'écrouler. Il n'est peut-être pas mort. Ça ne vous intéresse pas. Sans un regard, vous l'abandonnez.
Je pensais qu'elle me suicidait.
Vous pensez toujours à vous, il faut le reconnaître.
J'ai essayé, le revolver était vide.
Vous n'aviez pas gardé une balle pour vous? Sage précaution.
Mais non, elle n'a pas compté les coups, figurez-vous.
Vous n'avez pas songé à vous jeter par la fenêtre, bien entendu, non. C'est trop dangereux. Vous préférez le gaz. Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps.
Je voulais mourir. Mourir. Mourir.
Cette fois, il y a eu. C'était que la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats.
Quelle réplique, hein.
Et puis, ce n'est pas du génie de dialoguiste, ce sont les répliques du procès.
Alors voilà, c'est ça qu'il faut dire, hein, c'est que ces phrases ont vraiment été prononcées.
Oui, oui. Tout ce qu'on vient d'entendre là a été prononcé texto par l'avocat de la partie civile et l'avocat général.
Alors, si on revient, Philippe Génada, sur le moment du drame, pour vous, donc, l'arme, d'ailleurs, ne s'enraye pas, effectivement, comme elle le disait, les coups sont partis, elle a peut-être retourné l'arme contre elle, mais en tout cas, il n'y avait plus de balles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court à la cuisine et elle arrache le tuyau du gaz, c'est vrai, ça?
Oui, oui, ça c'est... Oui. Personne ne le conteste d'ailleurs. Ce qu'on conteste, c'est sa volonté de mourir, mais on a dit au procès qu'elle avait... comme on vient d'entendre, préférait le gaz parce qu'elle savait que les pompiers allaient arriver. Oui. Les pompiers ont toujours dit, les trois pompiers qui sont arrivés les premiers sur les lieux ont toujours dit, elle était dans un état critique, vraiment, quand ils sont arrivés. Oui. C'est pas une simulation, elle a vraiment, ça faisait une demi-heure qu'elle était intoxiquée. Et l'avocat de la partie civile a presque récusé ces pompiers en disant, vous ne connaissez pas ce que... Peut-être un coupable comédien, êtes fait abuser.
Vous êtes fait avoir, quoi, ouais. Alors, on a retrouvé aussi, il faut bien le dire, quand elle quitte Dunkerque pour aller à Paris, elle laisse un testament.
Oui, elle a
laissé un testament. Qui n'a pas été inventé, celui-là, dit qu'elle va se suicider.
Oui, elle va se suicider, c'est pour ça qu'elle y va, c'est sûr, elle laisse, c'est un testament un peu émouvant, parce qu'elle laisse son bracelet en or à sa petite nièce, enfin, c'est des petites choses, elle n'a pas grand-chose à l'époque. Non, mais c'est absolument, je vous dis, il suffit de regarder, on n'a pas le temps d'expliquer maintenant, mais j'essaie de le décrire dans le livre, la position du corps, les balles, etc., c'est une évidence qu'elle a d'abord voulu se tirer dessus, et c'est en reconstituant la scène avec ma femme, c'était un moment délicieux, à quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, c'est ça la littérature, c'est tuer sa femme.
Vous avez fait ça dans votre appartement.
On a fait ça dans notre salon,
Qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, je jouais Félix Bailly et elle jouait Pauline Dubuisson.
Oui.
Et puis, j'avais le plan de l'appartement, il y avait 2 mètres entre eux, c'est sûr. Et c'est impossible qu'elle ait braqué directement le pistolet sur lui. D'abord parce que là, si par exemple, Jacques, maintenant je braque un pistolet sur vous, pour vous défendre, vous n'allez pas courir vers moi.
Non.
Vous allez sauter quelque part.
Oui,
alors lui a couru vers elle, donc c'est absolument sûr. Et puis la position...
Il a peut-être couru vers elle pour la désarmer.
Il a couru vers elle. C'est sûr qu'elle a tourné l'arme vers elle. Il a couru vers elle par réflexe pour la désarmer, pour l'empêcher, c'est qu'un réflexe naturel.
Oui.
Et elle a eu aussi ce qu'on peut appeler un réflexe, mais alors pour le coup vraiment malheureux, c'est-à-dire quand on sent quelque chose qui vous tombe dessus, elle lui a tiré dessus, puis elle est rentrée dans une sorte de crise de nerfs.
Oui.
En tout cas, moi, c'est ma version et je la partage.
Bon, et elle aurait pu avoir, de toute façon, des circonstances atténuantes, quoi. Déjà, au pire.
C'est un crime passionnel. On lui a même refusé le titre de crime passionnel.
Voilà, absolument. Alors, il y a l'autre suicide, donc elle est incarcérée, je l'ai dit très rapidement. Non, là, vous avez retrouvé aussi le dossier médical, hein, c'est-à-dire qu'elle avait perdu 1 litre de sang.
Oui, et là, c'est pareil que pour
les
pompiers.
C'est énorme, là.
Ah, oui, c'est-à-dire que le docteur Paul, qui était un médecin légiste très, très réputé à l'époque, a écrit lui-même le rapport quand on l'a trouvée en prison, donc la veille du procès.
Oui.
Elle était mourante. Il dit, le pouls n'est plus sensible, elle est livide. Mais voilà, on a quand même dit simulatrice. On n'a pas cru l'expert et l'avocat général a crié à la simulation.
Voilà, donc elle est condamnée aux travaux forcés.
À perpétuité. On a requis la peine de mort. À laquelle elle a échappé de justesse, puisque sur les 6 jurés, il y avait une femme. Les 5 hommes ont voté la peine de mort. Et la femme, non. Donc elle a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité.
Voilà, alors ensuite, elle a été libérée pour bonne conduite. Elle a fait quand même pas mal d'années de prison. Hein. Je ne sais plus quand
elle est ressortie en 1960, début 59, début 60.
Voilà, et puis elle se fait oublier, elle se fait appeler André. Enfin, elle change d'identité, elle veut rentrer dans l'anonymat. Et à ce moment-là, 1961, le film de Clouseau, ça repart et c'est dans ces conditions-là qu'elle va décider de partir pour le Maroc. Alors là aussi, comme pour le début de sa vie, la fin de sa vie, on a publié énormément de choses contre lesquelles vous vous élevez en disant pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais la version, on va dire commune, c'est que elle part pour le Maroc, elle va trouver un travail, disons médical, paramédical, puisqu'elle est médecin. Et puis là, elle va rencontrer un homme. Cet homme va tomber amoureux d'elle. Ils vont faire des projets ensemble, et puis le jour où cet homme découvre qui elle est, ce qu'elle a fait, sa condamnation, alors il la largue, et à ce moment-là, eh bien, elle ne le tue pas, mais elle se tue, et elle réussit, si on ose dire, son suicide. Alors maintenant, on va faire la part des choses dans un instant avec vous.
Jacques Pradel sur RTL.
Philippe Génada, mon invité, auteur du roman La Petite Femelle, paru chez Julliard. La Petite Femelle, c'est, il l'a expliqué tout à l'heure, c'était extrait d'une réplique d'ailleurs de film, d'un film de Claude Autant-Lara, où Brigitte Bardot incarne un personnage féminin qui a une conversation, je crois que c'est une scène de danse dans un, dans un nightclub, et alors elle est avec un garçon qui accepte qu'elle soit très libre, et elle est avec un autre garçon qui lui dit, mais comment tu n'arrives pas, comme toutes les filles, voilà, de trouver un mari et de faire des enfants. Elle dit non, non, mais alors, qu'est-ce qu'il dit ton copain? Bah lui, il a tout compris, il a compris que j'étais une petite femelle, qu'il fallait me laisser faire ce que je voulais. Quoi. Voilà, bon. D'où le titre. Alors, y a une chose qui est étonnante, c'est que on n'a pas beaucoup dit, mais la personnalité de cette femme est quand même une très forte. Elle n'a pas un profil de victime. À son procès, elle se rebelle, elle se rebiffe, elle affronte ses magistrats, elle affronte l'opinion aussi, parce que toute la France la désigne du doigt. Bon, c'est un monstre. Et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et elle sait que ça ne va pas lui rendre service, quand même.
Non, puis alors c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une furie, hein, c'est pas une révoltée vraiment, mais en tout cas, elle résiste, ne serait-ce que passivement, c'est-à-dire qu'elle regarde droit dans les yeux.
C'est on ne lui fait pas dire ce qu'elle ne veut pas dire.
Elle ne fond pas en larmes en demandant qu'on la pardonne. Et d'ailleurs, la presse s'en est servie aussi. Il y a des photos d'elle où elle est simplement, elle regarde de face ses juges, mais du coup, ça passe pour de l'arrogance. Comment ose-t-elle, cette petite femelle, comment ose-t-elle affronter la loi, la justice, la France, presque. Donc, elle a jamais baissé la tête, quoi. Alors, elle n'a pas hurlé, elle n'a insulté personne, ni rien, mais en tout cas, elle a répondu froidement, tranquillement et sûre d'elle à toutes les attaques.
Et alors, quand elle est libérée de prison, donc après quoi, 7 ans à peu près, elle fait 7 ans, elle accomplit 7 ans de sa peine.
Après le procès, oui, en tout neuf.
Tout neuf, parce qu'elle était, évidemment, les faits remontent à 1951. Là, elle va reprendre des études de médecine. Et puis c'est à ce moment-là, alors qu'elle est, je sais plus si elle est en quatrième, cinquième année de médecine, arrive la sortie du film de Clouzot. Alors pourquoi cette femme qui résistait si bien au cours de son procès, finalement, baisse un peu les bras et décide de s'exiler au Maroc?
C'est-à-dire que elle pensait, on l'avait oublié, c'est pas qu'elle pensait, on l'avait oublié, comme vous aviez dit tout à l'heure, elle a changé de prénom.
Oui, elle s'appelait André, c'est le prénom de son père.
Voilà, et c'est aussi son second prénom. Ouais. Et donc, voilà, elle voulait simplement, elle voulait être pédiatre, elle voulait pouvoir faire sa médecine et puis sa vie de pédiatre ensuite. Et puis les journalistes sont mis à la poursuivre, en fait, à la pourchasser. Il y en a un qui l'a retrouvé, qui s'appelait Pierre Geoffroy de Paris Match, et qui a eu l'élégance à sa demande de ne pas publier l'article. Ça aurait pu, c'était vraiment un peu la chasse à la femme. Et puis lui, il l'a trouvé, mais il a pas publié l'article pour pas l'embêter. Mais elle a senti que c'était fini, qu'on la retrouverait de toute manière, c'était sûr. Et elle a vu une petite annonce, un hôpital à Essaouira, l'hôpital français à Essaouira, qui cherchait des internes ou des infirmières. Donc elle n'était pas médecin officiellement, mais elle est partie en tant qu'interne. Et là-bas, elle était considérée comme médecin. Et elle a cru, encore une fois, qu'elle allait pouvoir recommencer, repartir de zéro, recommencer une vie normale, et puis non.
Alors, cette rencontre, elle a eu lieu vraiment avec cet homme. Elle va rencontrer un expatrié.
Oui, en Essaouira, personne ne sait qui elle est. Tout le monde l'aime parce qu'elle est très dévouée, gentille, intelligente. Et puis, dans une des soirées entre Français ou peut-être un apéritif dans un des bars français d'Essaouira, elle rencontre un jeune ingénieur en pétrole, un jeune ingénieur pétrolier qui s'appelle Bernard. Et puis voilà, une histoire d'amour commence. Doucement, tranquillement, comme toutes les histoires. Et tout va bien jusqu'au moment où elle commence à sentir des regards un peu particuliers autour d'elle à Essaouira. Et c'est en fait un magazine qui s'appelait Réalité, qui n'existe plus. C'était un hebdomadaire, comme les hebdomadaires de News aujourd'hui, qui avait fait un article sur les grands avocats. En particulier l'avocat de Pauline Dubuisson qui s'appelait Paul Baudet, et cet article était illustré par une photo d'elle. Et il s'est trouvé qu'un dentiste d'Essaouira, comme quoi le hasard vient parfois, a conservé ce magazine qui était sorti en 60 sur sa table,
qui est dans le salon d'attente,
avec les fameux magazines. Et ben petit à petit à Essaouira, le bruit s'est répandu que Le docteur André Dubuisson était en fait la criminelle Pauline Dubuisson. Et là, sentant la pression autour d'elle, elle a décidé de tout avouer avant de se marier avec son ami ingénieur qu'elle avait rencontré, Bernard.
Elle lui a tout dit.
Elle lui a tout dit, et puis lui, malheureusement, alors il n'a pas vraiment envoyé paître, mais enfin, il a eu une réaction, il a été tétanisé, et il lui a pas donné de nouvelles pendant 2 mois, et elle a compris que, encore une fois, son passé l'avait rattrapé, et cette fois, oui, elle a réussi son suicide.
Ouais. Alors, elle n'a, contrairement à ce qui a été beaucoup dit et écrit, elle n'a rien laissé, parce qu'on a parlé d'un manuscrit mystérieux, d'une centaine de pages, très, très, tellement mal écrites qu'on n'a jamais réussi à la déchiffrer.
Ça, c'est une invention d'un auteur qui s'appelait Jean-Marie Fitter, dans les années 90, et qui a dit, voilà.
Ça se faisait bien dans le truc. Comment vous expliquez ça, cette envie de... Alors, cela dit, ça dépend si c'est des collègues à vous, hein, si j'ose dire, d'autres écrivains. S'il y a marqué roman, finalement,
sûr,
ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, non?
Non, tout à fait. Alors là, ils écrivent absolument ce qu'ils veulent.
Le problème, c'est qu'on a pris pour argent comptant.
Ça devient réalité.
Qu'est-ce que vous avez raconté vite? Parce que j'ai un œil sur la pendule, le temps passe à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que vous avez inventé, vous?
Rien.
Dans votre livre, qu'on pourrait rajouter.
Alors, je veux bien qu'on cherche, mais j'ai vraiment essayé. C'était ma seule contrainte, c'était de ne rien inventer. Ouais. Quand je ne savais pas, de ne pas en parler, mais en tout cas, de ne dire que des choses que j'avais. Trouvé authentique.
Il reste des gens, des descendants de cette famille, des gens qui portent ce nom.
Oui, je pense qu'il reste des enfants et des petits-enfants de son grand frère, Apolline Dubuisson.
Vous n'avez pas fait d'enquête dans
Non, parce qu'ils ne l'ont pas connu. Et puis,
D'accord. Voilà. Ouais. Et vous êtes né en 64,
Exactement.
Voilà, 11 ans après le procès, quand même.
Ouais,
elle vous a bien rattrapé.
9 mois après sa mort.
Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Philippe Génala, et vraiment, bravo, je ne voulais pas commencer par les coups de chapeau, mais votre livre est exceptionnel. La petite femelle, paru chez Julliard, signé Philippe Génala, qui était notre invité aujourd'hui. Voilà, l'émission est maintenant terminée.